Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel Fadel.
Ce serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel Fadel.
Dominique, Yasmine, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bon, alors, on va commencer en parlant de Huawei. Finalement, le gouvernement fédéral a décidé d'interdire Huawei dans le développement de la technologie 5G. Demande aussi à ceux et celles qui ont travaillé sur Huawei, qui ont travaillé avec Huawei, pardon, dans les derniers mois, d'arracher tout ce qui est Huawei dans leur équipement, Yasmine, pour des raisons de sécurité.
Oui, c'est ça. C'était le ministre François-Philippe Champagne, accompagné du ministre de la Sécurité publique. Donc, le message est clair, là. C'est une question de sécurité publique, de sécurité nationale, qu'ils ont lancé hier. Puis, ce que j'ai dit hier au bilan, puis que je trouve intéressant, là, François-Philippe Champagne avait un événement inscrit à son agenda à 16h auquel il devait assister, qu'il a annulé la journée même pour tenir ce point de presse. Alors, on se demande pourquoi. C'est quoi l'importance d'annoncer ça hier, puis annuler un rendez-vous qui était une conférence qui était destinée à certains groupes depuis longtemps. Il doit y avoir quelque chose dans l'agenda qui a poussé le ministre à sortir hier.
Dominique?
Ben, c'est une sortie qui remplit un certain nombre d'objectifs. Premièrement, moi j'ai trouvé que les ministres étaient très clairs. Hein, hier, les deux ministres ont dit à peu près 165 fois « Je veux être très clair ». Alors, je pense que si on enlève juste ces mots-là, la conférence de presse, on aurait gagné 15 minutes pour que je puisse nous expliquer autre chose. Mais tabarouette que c'est long, les points de presse fédéral. Mm-hmm. Je veux dire, toi, quand t'es à Ottawa...
Déjà qu'ils partent une demi-heure en retard, là.
Ils partent une demi-heure en retard, sont 16, ils vont tous répéter le même message en français et en anglais. Fait qu'hier, le message, essentiellement, c'était « Huawei et ZTE ne pourront pas participer à la suite des choses pour la 5G. » Ça aurait vraiment pu être un communiqué, là. Mais non, on a eu deux ministres qui nous ont dit qu'ils étaient très clairs et que, donc, la sécurité des Canadiens, on n'allait pas jouer avec ça. Mais je dis que ça remplit plusieurs objectifs. Donc, il y a le message qu'on voulait lancer, il y a le moment, Yasmine l'a très bien dit, et puis, ben, ça fait en sorte qu'il se mêle un peu de la cause conservatrice. Parce que Jean Charest a été avocat de Huawei, puis ça coûte pas une pièce de plus, là, tu sais, pour les libéraux, là, ils font cette annonce-là. Et, ben, que M. Charest réponde aux questions, ça a pris à peu près 2 secondes hier, et les gens de l'entourage de Pierre Poilievre, le sénateur Oussakos, en tête du cortège, avait enlevé les gants et fessait allègrement sur M. Charest. Et je voyais les gens de l'entourage de M. Charest dire « Mais oui, mais lui, sa job, essentiellement, c'était d'aider à la libération des deux Michaels. »
Ouais.
Je disais exactement, tu sais, Huawei, c'est exactement ça qui se passe. Je suis pas sûr que M. Charest va gagner la guerre du spin sur cette question-là.
Ouais, Yasmine, il y avait quand même une question... On va dire juste que tout le monde se pose encore ce matin, qui est comment ça se fait que nous, ça a pris 3 ans, que la Nouvelle-Zélande, que le Royaume-Uni, que les États-Unis, que l'Australie, nos alliés qu'on appelle les Five Eyes, là, eux l'ont fait assez rapidement, ont pris ces décisions-là. Puis tout le monde regardait le Canada en se disant, pourquoi c'est long comme ça? Puis hier, la question a été posée à François-Philippe Champagne, puis il a répondu, ben c'est pas une course. Je veux bien que ce soit pas une course, là, mais si tu fais Montréal-Québec en 3 jours au lieu de le faire en 3 heures... Il faudrait quand même que tu m'expliques ce qui s'est passé entre-temps pour que ce soit si long, non?
Mais ça peut justifier. S'expliquer, pas se justifier. Dans le sens où il y a eu toute la crise avec Meng Wanzhou qui était ici. Il y a eu les deux Michael. Ça s'est réglé juste en septembre dernier. Ensuite, il y avait des accords commerciaux sur le canola qui devaient être réglés avec la Chine. Ce n'était pas le moment d'escamoter ces discussions-là. Ça vient de se régler il y a quelques semaines, quelques mois. Et donc, maintenant, on passe à l'offensive. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une réaction et de la Chine. C'était pas le moment pendant que les deux Michael étaient en Chine et qu'il y avait une crise, notamment diplomatique avec la Chine, avec Meng Wanzhou qui était ici, de jeter de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on aurait pu faire ça il y a plus tôt? Oui, mais je pense qu'ils sont dans une gestion des risques de la réaction de la Chine, puis c'était pas le moment avant. C'est correct, là, il y avait rien qui était fait. Huawei n'était pas installé au Canada, puis que ça créait tout un remous, puis toute une problématique. Là, il y avait quelques produits ici et là, notamment auprès de TELUS. Ils vont devoir retirer ça, puis ils ont du temps pour les retirer aussi. Là, c'est pas du jour au lendemain. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de compensation pour le fait de retirer les produits Huawei et ZTE.
Dominique?
Je voulais juste te reprendre. Je m'excuse, Philippe Vincent, ça arrive pas souvent, mais il a pas dit « c'est pas une course ». Il a dit « je veux être très clair ».
Merci, Dominique, d'être aussi clair ce matin. C'est rafraîchissant de savoir que tu es là pour nous rappeler à l'ordre. Un qui s'est fait pas mal rappeler à l'ordre hier, c'est Daniel Paré. Hier, c'était le point de presse de la coroner, Jeanne Kamel, qui expliquait son rapport, finalement, qu'on a eu un peu plus tôt cette semaine. Puis, c'était comme un peu passé. On en avait un peu parlé, mais pas vraiment, parce qu'il y avait tellement de sujets préoccupants à l'intérieur de ce rapport-là que, finalement, Daniel Paré, ancien PDG de CIS, donc de CI3S, on est dans Chaudière-Appalaches, là où il y avait le manoir Liverpool, qui a aussi eu son lot d'histoires d'horreur. Puis là, on a dit, ben dans votre rapport, vous en parlez un petit peu de M. Paré, qui vous a assuré que lui ne le savait pas, n'était pas au courant. Mme Kamel n'a pas été tendre à son endroit, là, Dominique.
Elle n'a pas été tendre, dans le fond.
Elle
a été très claire. Elle n'a pas eu besoin de commencer sa phrase comme ça. C'était un état de fait. Mais donc, d'y trouver excessivement particulier que plusieurs jours après qu'on ait mis en place un soutien administratif pour aider donc le manoir Liverpool dans ce cas-ci, un PDG soit pas au courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut pas vouloir le savoir, selon la coroner, si après tant de temps, tu n'as pas eu de nouvelles. Donc, elle a effectivement pas été tendre. D'ailleurs, M. Paré, quand c'est arrivé, avait quitté son poste, donc de président du site de Chaudière-Appalaches. Évidemment, il s'est retrouvé ailleurs dans l'organigramme responsable de la vaccination. Puis il y a eu un peu, il s'est repris, disons. Mais c'était pas sa meilleure journée au bureau hier. Et je pense que si M. Paré avait pas été en mesure de faire le roll-out des vaccins aussi diligemment qu'il ne l'a fait, il serait probablement quelque part dans une salle avec Lynn McVay en train de se demander, la PDG du CIS de l'Ouest de l'île en train de se demander, bon...
En train de refaire son LinkedIn, là.
Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine et ainsi que la semaine suivante.
Yasmine, est-ce que c'est un boulet pour le gouvernement?
Ben, je sais pas si c'est un boulet pour le gouvernement, mais à tout le moins, il y a un deux poids, deux mesures. Là. Lynn McVay, elle a été démissionnée là dans les heures qui ont suivi la diffusion du rapport. Daniel Paré, c'est moins clair. Puis là, il y a des versions qui sont différentes. La vérité, c'est qu'on donne un passe-droit à Daniel Paré parce qu'il a réussi l'opération de vaccination. Mais
il n'a pas fait d'appel au 911 non plus 10 jours après avoir pris conscience de la situation.
Non, lui, il était juste pas au courant.
Il était juste pas là.
Il était même pas conscient de la situation pour appeler le 911. Là, tu sais, on est comme une coche supplémentaire. Puis là, tu te dis, pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures? Parce qu'il a réussi la vaccination, mais c'est pas sur la vaccination que c'était. Hier, là, Jeanne Kamel était cinglante envers Daniel Paré. La réponse du gouvernement va devoir être plus claire de pourquoi lui est maintenu en poste dans l'organigramme du M3S, puis pas une McVay qui a été démissionnée très rapidement.
Ouais, mais il fait un meilleur travail en ce moment. Là. T'sais, en même temps, je présume qu'il doit avoir ça, Dominique. Là, c'était au ministère de la Santé. Tu dis, ben, il est meilleur sous-ministre que PDG de CIS, visiblement. Là.
Absolument. C'est même dans des jobs comme ça, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'effectuer de manière interchangeable toutes ces jobs de haut fonctionnaire-là. Puis je pense qu'on peut l'affirmer sans gêne. Là. Il performe beaucoup mieux maintenant qu'il ne l'a fait. Puis malheureusement, pour un certain nombre de personnes, dont des gens qui étaient résidents au manoir Liverpool, ça a eu des conséquences funestes.
Juste une question sur ce que la coroner disait hier. Elle disait dans Aaron, c'est la faute d'un peu tout le monde. Les propriétaires, le CIUS, le gouvernement aussi. Le gouvernement a dit, on prend nos responsabilités, mais est-ce qu'il va falloir qu'il en fasse plus? Parce qu'hier, la coroner disait, ça prend un tour de roue supplémentaire. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. On a parlé de cette réflexion-là qui doit être faite par le gouvernement pour boucler la boucle, finir ce chapitre-là, Yasmine. Est-ce qu'à part de dire, on prend nos responsabilités, je vais être très clair, on prend nos responsabilités, il va falloir que le gouvernement fasse plus?
Ben oui, prendre ses responsabilités, c'est une belle petite phrase que nous, attachés de presse, avions l'habitude d'écrire à nos patrons, là. Mais ça s'arrête pas mal là. T'sais, une fois que tu l'as dit, t'as rien écrit, là. T'as rien dans tes mains comme responsabilité. Le gouvernement va devoir faire un acte de contrition qui soit réel, parce qu'aujourd'hui, les familles endeuillées, ils veulent pas entendre que le gouvernement prend ses responsabilités. C'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Je ne pense pas que le gouvernement va faire quoi que ce soit, honnêtement, parce qu'il y a des actions qui ont été intentées par les familles ou civils. Donc, ils vont essayer de se garder toutes les chances de pouvoir se défendre. Mais comment tu peux te défendre devant un rapport comme ça, devant des familles qui sont endeuillées avec la catastrophe que l'on connaît? La moindre des choses là, à date, là, c'est faire un acte de contrition qui soit senti plus qu'on prend nos responsabilités. C'est dire on l'a échappé.
Dominique?
Ouais, puis je serais pas étonné, moi, de voir apparaître dans les programmes des partis politiques qui s'en vont en campagne le fait que ça va être la fin des CHSLD privés non conventionnés. Ça va être, c'est selon moi, la prochaine étape. Tu sais, je pense que Québec solidaire s'y est déjà engagé, ou je serais pas étonné de voir tous les partis, sauf peut-être le Parti conservateur, dire que ça va être dans la plateforme. Donc, peu importe qui gagne, on va se retrouver avec un changement de paradigme à ce niveau-là, parce que ça me semble politiquement à peu près la seule issue possible. Moi, je pense que c'est vers là qu'on s'en va, mais ça se fait pas en criant si doux.
Parlons financement politique. On avait dit que le parti d'Éric Duhaime, ça allait bien, il avait le vent dans les voiles. Là, la presse canadienne est retournée faire les calculs et, surprise, le Parti québécois devance maintenant tous les autres partis au chapitre du financement. 430 000 $ qui ont été recueillis depuis le début de l'année. 428 $ pour les troupes d'Éric Duhaime. Bon, puis après ça, on s'en va ailleurs. Du côté de la CAQ avec 392. Puis les libéraux qui sont à 168, alors que Québec solidaire est à 300. Financement comme ça au Parti québécois, c'est quand même encourageant, on va le dire. Il y a des bonnes nouvelles ce matin pour eux.
Ben, c'est l'état habituel des choses, là. Moi, je les ai écrits, ces communiqués-là, pendant des années, là, pour dire, vous pensiez qu'on était mort, ben non, on ramasse encore de l'argent. Mais après ça, ça garantit pas un résultat électoral. Tu sais, PQ premier dans le financement, c'est la norme au Québec.
Oui.
Parce que beaucoup plus de membres, parce que des campagnes spécifiques à 5$, à 10$, ce qui était anormal, c'était que le Parti conservateur ait, pendant un certain nombre de temps, chopé la première place au Parti québécois. Mais, alors oui, bonne nouvelle, mais il n'y a pas de lien direct ou de corrélation entre un bon financement. En fait, il n'y a pas de garantie électorale qui vient avec un bon financement. C'est le message que j'ai envie d'envoyer aux gens du Parti québécois, parce que, comme je l'ai dit, je l'ai écrit 50 fois, ce communiqué-là. Puis en 2012, je l'écrivais quand j'étais au gouvernement. En 2014, je l'écrivais quand j'étais dans l'opposition. Puis après 2018, ils l'écrivent, puis ils sont troisième opposition.
Yasmine?
Ben, si l'argent pouvait voter, c'est sûr qu'il serait au pouvoir sans interruption. La vérité, c'est que ils sont en troisième opposition, puis s'il y avait une place à la quatrième opposition, ben ils seraient probablement là. Puis c'est pas exclu pour après le 4 octobre. Là, il faut pas qu'ils se pètent trop les bretelles en disant, regardez, on ramasse de l'argent, ça va se transformer en vote. Rappelons-nous Marie-Victorin. Je sais que pour eux, c'est une victoire, mais je veux juste rappeler que pour le commun des mortels, c'était l'échec du PQ, c'est pas leur victoire. L'argent ne vote pas, puis encore faut-il savoir comment l'utiliser. Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'ils vont l'utiliser pour leur fonds publicitaire, qu'ils vont faire de plus grandes publicités. Ça, je trouve que ça manque de stratégie, de dire comment tu vas dépenser ton argent en campagne électorale. Ça démontre un certain niveau d'amateurisme. Là, il n'y a aucun politicien qui a déjà géré un parti politique qui dit comment il va dépenser son trésor de guerre pendant une campagne électorale.
En même temps, à l'argent, tu sers à quoi si c'est pas acheter de la pub?
À organiser, à
acheter des sandwichs,
à l'autobus.
Et dans le cas du PQ, pendant longtemps, ça a été à payer la campagne de 2012.
Aïe, pauvre eux. Hey, on a quand même un peu de temps pour parler de musique. On a décidé de rappeler ce qui s'est passé cette semaine à Jason Kenney, musicalement aujourd'hui. Lui qui s'est fait montrer. Il va rester quand même chef, là, par intérim, là. Donc, il va faire l'intérimaire entre sa démission et son remplacement à la tête de son parti. Il va rester aussi premier ministre jusqu'à ce qu'on lui trouve un successeur. Et le thème qu'on avait, c'était la solitude. Et qui de mieux que Garou pour chanter cette solitude?
Tant d'amis sont partis. Il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul. Selon point de départ.
Ah voilà, Jason Kenney, malgré les amis, la gloire est maintenant seul. Bonne fin de semaine à vous deux là.
Bonne journée, bye bye.